assise avec ton enfant sous ta chemise, les épaules nues couvertes d'or. Pour plaire à ton Dieu, tu danses encore. La rivière coule au pied du temple de l'aurore. Personne ne pleure ni ne se plaint. La nuit, les rues sont chaudes, les enfants jouent avec leurs grands yeux sans paupières, leur peau bronzée, leur ventre clair. La rivière coule au pied du grand Bouddha de pierre. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Je t'ai vu dans la cité étrange, porte du ciel, ville des anges, avec l'amour, la liberté. Mange la mangue et bois le thé, ta rivière coulera sans s'arrêter. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Je t'ai revu dans la rue, assise avec ton enfant, sous ta chemise, les épaules nues, couvertes d'or. Tu danses toujours, tu danses encore. La rivière coule au pied du temple de l'aurore. Royaume de Siam, chemin qui mène au peuple heureux. Royaume de Siam, celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux. Celui qui voit le monde par tes yeux, celui-là peut-être, il peut être heureux.
Lettres d'amour sur beau papier bleu, écrites quatre jours sur deux, pour quelques princesses de 14 années, pour quelques déesses en boutons d'acné. Plus tard, quand la vie commence, quand tombent les feuilles et les dents de lait, au premier regard, à la première danse, au premier clin d'œil, à la première plaie, ces lettres d'extase du premier aveu. Et de pauvres phrases à la queue-leu-leu, on se les rappelle, on en rit beaucoup, on les amoncelle, on les porte au clou. Les lettres d'un jour, les lettres postiches, les lettres d'atour, les lettres qui trichent, pour quelque héritière venue d'Amérique, pour quelque épicière dans l'arrière-beauté. Plus tard, quand la vie est là, qu'on pousse de par deux les dents de sagesse, et qu'on redémarre avec celle-là une vie à deux pleine de tendresse. Ces lettres sournoises d'un trop sale enjeu, et le périphrase tiré par les cheveux, on se les rappelle, on en rit beaucoup, on les amoncelle, on les porte au clou. Les lettres d'amour, les lettres jaunies sont...
Monsieur le Président, Madame Chirac-Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu. de mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en 1027. Interrogez les rues d'un gars sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. Cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Ou moi, quand je suis lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, la poisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'Alice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entendu d'Hitler. Mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les buts de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser les défauts de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, Serge des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me petit futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel, bonjour. Nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Et la dernière fois, nous avions un petit problème technique. C'est pour ça que l'émission n'a pas pu avoir lieu. Elle était sur Gaston Couté, mais nous allons la refaire. Alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Olivier Petitjean. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Alors, Olivier, tu es le coordinateur de l'Observatoire des multinationales, c'est ça ?
Exactement.
Parfait. On te reçoit pour un excellent ouvrage qui est paru le mois dernier, co-écrit avec Attac, Super Profiteur, le petit livre noir du 440, aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Exactement.
Voilà. Alors, Attac, qu'est-ce que c'est ? Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas Attac, qu'on aurait vaguement entendu parler.
Bah, Attac, à la base, c'est une association qui fête son 25e anniversaire cette année, d'ailleurs,
oui.
Qui a été créée à la fin des années 90 à l'appel de journalistes du monde diplomatique qui militaient pour une taxation sur les transactions financières. Donc déjà, il s'agissait de réduire le poids de la finance des marchés financiers. Donc cette association s'est beaucoup étendue et aborde en gros tous les sujets de justice économique, y compris d'aujourd'hui de justice climatique, donc fait à la fois des campagnes citoyennes et du plaidoyer de la contre-expertise, parce que c'est une association qui se veut aussi d'éducation populaire, donc qui fait ce lien entre le côté contre-expertise, avec un conseil scientifique, l'élaboration de propositions, mais aussi des campagnes, y compris des campagnes d'action directe, ciblant des milliardaires ou des grandes entreprises. Voilà, donc c'est aujourd'hui une association militante.
Alors, d'après la présentation du livre, ATAC, c'est 10 000 membres, 150 comités locaux, et elle est présente dans 40 pays. Alors, par contre, l'Observatoire des multinationales, on t'avait reçu il y a quelque temps.
Beaucoup moins de membres présents dans un seul pays, mais c'est vrai.
Mais quel travail!
Voilà, donc nous, on est à la base, on a été créés par des journalistes pour travailler, enquêter sur les multinationales, en particulier françaises, parce qu'on pensait que... Et notamment, nous, on a aussi... on n'a pas 25 ans, mais on a quand même bientôt 10 ans. À l'époque, il y avait encore... Maintenant, c'est, heureusement, il y a un peu plus, mais à l'époque, il y avait moins d'enquêtes sur les grandes entreprises, le poids des grandes entreprises, à la fois en France et dans le monde. Donc, on a été créés à la base pour enquêter... faire venir des faits au jour, des abus au jour, mais aussi comprendre les stratégies de ces entreprises, à la fois d'influence politique, leur mainmise sur les gouvernements, mais aussi produire des chiffres qui disent la vérité de ces grands groupes au-delà de toute leur communication. Évidemment, quand on écoute des groupes comme Total ou BNP ou tous les autres, Carrefour, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont vertueux, qu'ils créent de l'emploi, qui payent des impôts et qui sont parfaits. Mais en fait, la réalité, il suffit de creuser un petit peu, pas très profondément, pour voir que la réalité est tout autre. Donc on travaille beaucoup sur la réalité des chiffres, des faits sur ces grands groupes. Et d'une certaine manière, ce livre dont on va parler aujourd'hui, Super Profiteur, c'est un peu une synthèse de tout le travail que fait l'Observatoire depuis 10 ans sur les grands groupes du CAC 40.
Voilà. Et vous faites aussi des formations. Il y en a une pour le 20 juin. Il reste encore de la place.
Exactement. Donc nous, on essaye aussi non seulement de produire nous-mêmes des choses, mais d'aider les autres à accéder à l'information dont ils ont besoin. Donc ça peut être des collectifs citoyens, locaux, militants, des élus, des syndicats, des journalistes. Une partie de notre activité, c'est de les aider à trouver des sources, des infos. Et dans le cadre de cette démarche, un peu de propager les bonnes... d'encourager les gens à se poser les bonnes questions et à pas laisser la communication libre cours à la communication des multinationales et du gouvernement, qui est en général la même. Donc on organise des formations à prix libre, et souvent gratuites pour ceux qui n'ont pas les moyens, sur comment enquêter sur les multinationales en général. Et celle du 20 juin, là, ce sera plus spécifiquement sur comment enquêter sur le lobbying des grands groupes. Et donc c'est destiné aux journalistes, aux militants, aux salariés associatifs, etc., tous ceux qui ont besoin de comprendre comment fonctionnent ces grands groupes et qu'est-ce qui explique qu'ils aient autant d'influence et comment on peut trouver les moyens de mettre cette influence en lumière et du coup les contrecarrer. Et donc, alors, ça a lieu le 20 juin à Paris, et il reste quelques places, effectivement.
Alors, donne l'adresse de ton site internet pour qu'on puisse se connecter.
Voilà, notre site, c'est simple, c'est observatoire des multinationales, tout attaché, .org. Ou si vous tapez multinationales au pluriel .org, ça marche aussi, vous arrivez sur notre site.
D'accord. Alors, pourquoi parler de super profiteurs? Bon, le petit livre noir du CAC 40, ça, on s'en doute. Mais super profiteurs, c'est un terme qui a une signification bien précise, surtout pour la France. D'après-guerre.
Ouais, donc ça renvoie effectivement. Donc ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à cette idée de super profit. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité de ces grands groupes et même au-delà. Il est beaucoup question depuis un ou deux ans des super profits réalisés, notamment dans le secteur énergétique, pétrolier, les super profits de Total, mais aussi dans d'autres secteurs, les super profits de CMA CGM, qui est une entreprise que personne connaissait, qui fait du transport maritime, les super profits, et aujourd'hui les super profits de l'agroalimentaire, mais en fait, c'est ce qu'on dit un peu dans le livre, plus on gratte et plus on voit que dans plein de secteurs il y a des super profits, des profits exceptionnels. Donc ça renvoie à cette idée de super profit sur laquelle je pense on va revenir, parce qu'il y a eu tout un débat sur est-ce qu'il y a vraiment des super profits, est-ce qu'il faut les taxer, etc., etc. Mais ça renvoie aussi à cette idée de profiteur, entre autres aussi de profiteur de guerre. Donc il y a eu tout un débat. Il faut se rappeler que en fait, la révolte, la contestation des multinationales, c'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui existe depuis que les multinationales existent. C'est un grand moment de contestation du poids des multinationales. Ça a été la Première Guerre mondiale, où évidemment il y a eu une saignée à blanc dans la population, qui est la chair à canon, qui est morte sur le front. Et dans le même temps, des entreprises, dont certaines existent encore aujourd'hui, hein, parce que c'est souvent les grandes entreprises d'armement ou d'automobiles d'aujourd'hui sont les héritiers de ces entreprises, qui ont accumulé des fortunes, des profits énormes. Et donc il y a eu tout ce débat sur les profiteurs de guerre, ces grandes entreprises, Renault, Citroën, Peugeot en France, et bien d'autres, et leurs équivalents en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et c'est à l'époque que voilà, il y a eu cette idée de mettre un impôt exceptionnel. Donc il y avait déjà, on parlait même déjà de taxation des super profits à l'époque, sur les profiteurs de guerre. Et c'est de cette époque aussi que date la création de l'impôt sur les sociétés. Donc c'était vraiment un moment important dans l'histoire
fiscale
de la réintégration, des tentatives de réintégration des multinationales ou de leur faire contribuer davantage au bien commun.
Alors, vous faites une observation dans l'introduction du livre, à savoir que les riches sont surtout des hommes et que les pauvres sont surtout des femmes et qu'il y a un enjeu féministe derrière cette lutte contre les super profiteurs.
Mais je pense qu'on peut dire que oui, en fait, les inégalités de richesse, elles se superposent, elles renforcent d'une certaine manière d'autres inégalités, donc les inégalités de genre, mais aussi les inégalités de couleur de peau, d'origine, etc. Donc effectivement, c'est jamais innocent. Les riches, ils ont tendance à être des hommes, à être des hommes blancs, etc., etc. Donc d'une certaine manière, on peut pas séparer ces différents combats.
Bon. Alors, les super-profits, je ne sais pas ce que c'est. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire à l'université d'été du MEDEF en août 2022. On va lui envoyer une copie de l'émission et je te suggère, Olivier, de lui envoyer une copie du livre.
Ouais, je sais pas, parce que...
Pour sa formation.
Je sais pas s'il écoute beaucoup.
Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que s'attaque à fort à faire, parce qu'il y a tout un courant de pensée. Il y a un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, où la philosophie, c'est justement que on est fier si on est un super profiteur, on est fier si on est très très riche. Et je pense que malheureusement, cette idéologie capitaliste gagne beaucoup les esprits en Europe, mais aussi dans le tiers-monde, dans les pays en voie d'enrichissement ou en voie d'accéder au rang de pays internationalement reconnus. Qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je suis pas sûr, parce qu'on entend toujours, effectivement, ce discours régulièrement. Bernard Arnault, le PDG Total, dit « Oh, en France », mais même nos ministres disent « En France, on n'aime pas l'argent, on n'aime pas les gens qui ont de l'argent ». Donc ils aimeraient bien, c'est vrai qu'ils aimeraient bien normaliser, que ça devienne normal et que plus personne, qu'il n'y ait plus de contestation de ce niveau d'enrichissement et de l'accroissement des inégalités. Mais je pense que peut-être que et effectivement il y a toute une force de frappe dans les médias culturels où ils essaient de propager cette idéologie, cette valorisation de la richesse. Et
non, mais enfin HEC, les grandes écoles aussi, faut pas minimiser leur mainmise. Hein.
Tout à fait. Non, mais je minimise pas. Mais d'un autre côté, on voit aussi quand même qu'il y a une montée de la contestation de ces groupes. Moi, je pense que on est quand même dans une phase où, je disais, on a créé l'Observatoire il y a 10 ans. À l'époque, les campagnes citoyennes ciblaient beaucoup moins les entreprises. C'était beaucoup plus rare qu'on cible les entreprises. Maintenant, c'est systématique. Bon, sur les sujets climat, mais pas seulement évasion fiscale, c'est des cibles de choix, même presque autant que les politiques de attaque, mais aussi des mouvements écolos. Donc ça commence à monter. Et même, on voit nos confrères de Mediapart qui sont créés, qui sont des journalistes d'investigation, et jusqu'il y a peu, en fait, ils ciblaient, et c'est leur corps de métier, c'est normal, c'est pas une critique, les responsables publics. Et on voit que maintenant, depuis, en fait, assez récemment, ils ont des enquêtes spécifiques, un programme d'enquête sur Total, sur LVMH. Donc, je pense qu'au contraire, les excès, on voit, et c'est ce dont on parle dans ce livre, c'est à quel point ils arrivent de moins en moins à cacher le fait qu'ils s'enrichissent, que les richesses sont accaparées de plus en plus par un petit nombre. Et que les coûts, par contre, est de moins en moins caché, les coûts, la face cachée de cette richesse, donc tous les coûts qu'ils imposent à la société, ils arrivent de moins en moins à cacher les milliards d'aides publiques, par exemple, que touchent les grandes entreprises en France chaque année. Maintenant, c'est devenu, on ne peut plus le dénier, alors qu'il y a encore quelques années, ils essayaient de le dénier. Ils ne peuvent plus cacher qu'il y a des super profits. Ils ont essayé encore, comme Bruno Le Maire, il y a un an, de dire « Ah, il n'y a pas de super profits », mais maintenant, on voit bien que c'était pas un accident et qu'ils continuent à faire des profits exceptionnels. Donc, je pense que, oui, c'est toujours une bataille, mais il y a quand même des contre-tendances et la délégitimation, disons, de ces grands groupes. L'idée que, de toute façon, c'est des grands groupes français, donc c'est bien, et puis on en a besoin, ils vont nous apporter plein de choses. Elle commence à... qui est quand même une emprise très forte sur une bonne partie de la population, même dans le monde syndical, du mouvement ouvrier, une partie du mouvement ouvrier, etc. Est quand même en train de trembler, de vaciller. Et avec ce livre, ce qu'on veut, c'est donner un coup un peu plus fort pour que ça vacille un peu plus fort. Quoi.
En fait, la réalité peu reluisante des grandes entreprises françaises, elle est exposée surtout dans, dans la première partie du livre. Et tu expliques notamment qu'il y a un contrat qui a été rompu, le contrat des Trente Glorieuses, où il y avait une redistribution plus égalitaire des fruits de la croissance. Et maintenant, on rend le moins possible à la société.
Oui, donc on va... Il ne faut pas idéaliser non plus cette période des Trente Glorieuses, mais c'est un peu ce que je disais. Il y avait quand même une sorte de consensus plus large et qui concernait une partie du mouvement ouvrier, les grands syndicats, etc. Où on disait, bon, on est d'accord pour cette politique économique qui met sur les grandes entreprises, la modernisation, le développement industriel, les grands programmes comme le nucléaire, par exemple, parce qu'on pense que ça va permettre de créer de l'emploi en France, augmenter les salaires dans l'industrie, etc., etc. Et donc, l'État était plus présent, les problématiques d'évitement de l'impôt, d'optimisation fiscale étaient un peu moins présentes parce que les marchés financiers étaient clairement, avaient une emprise moindre sur l'économie. Et donc, ce qui faisait que c'était loin d'être parfait, parce qu'il y avait toutes les faces cachées de ce consensus, la face de l'exploitation coloniale ou postcoloniale, la face des inégalités de genre, la face de la pollution, toutes les questions environnementales qui étaient reléguées un peu, dont on préférait pas trop parler, etc. Donc maintenant, c'est plus possible d'idéaliser cette période. Mais donc, on voit que, en fait, cette idée de champions nationaux, dont on parle beaucoup, parce qu'en fait, le fil conducteur de ce livre, d'une certaine manière, c'est d'interroger, de questionner, et plus qu'interroger, de remettre en cause, et si possible, de démystifier, de détruire cette idée de cette illusion des champions nationaux. C'est à cette époque que gagne cette idée, que date cette idée de champions nationaux. On a des entreprises, elles sont françaises, et elles vont, on en bénéficie tous d'une certaine manière, parce qu'on est français, ou on vit en France, etc. Et je pense que là, aujourd'hui, on voit que Emmanuel Macron, son gouvernement, et même beaucoup de grandes entreprises continuent à jouer sur ce registre. On voit aujourd'hui, on entend LVMH dire, ah, mais c'est bien, parce que c'est bien qu'on est l'homme le plus riche du monde. LVMH crée des emplois en France, c'est bien pour le prestige de la France, etc., etc. Et en fait, le monde a changé. Déjà, on peut plus, tous les problèmes que j'ai cités, on peut plus les cacher, ils se sont exacerbés, la question climatique, etc. Et on voit aussi que cette idée de redistribution des dividendes de la croissance, comme on dit, elle est de moins en moins vraie parce que...
De ruissellement.
Bah, c'est ça, c'est une version de la théorie du ruissellement pour les grandes entreprises. C'est-à-dire, on donne tout à nos grandes entreprises, on les soutient à fond, on leur donne des aides publiques, et on les aide à passer des contrats un peu partout, y compris avec des dictatures, etc. Et puis, parce que c'est bien pour nous. Et ça va ruisseler sur le reste de l'économie française. On voit que ce qui est la prospérité de ces grands groupes, elle est totalement déconnectée d'une part de la prospérité de l'économie française en général, des petites entreprises, du secteur non lucratif, du secteur public. Donc, on voit que ces grands groupes, par exemple, pour prendre l'exemple des groupes automobiles, ils suppriment des emplois en France et ils suppriment aussi leurs relations avec leurs sous-traitants en France pour délocaliser ailleurs. Et d'autre part, bon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Donc ils rendent de moins en moins, ils accaparent de plus en plus.
Et ils rendent de moins en moins, à la collectivité. Alors, François Hollande a sorti une phrase que tu as reprise dans le livre. Je la cite. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation. Il n'y a pas de crainte à avoir. C'était une déclaration au Guardian en février 2012.
Ouais.
Il
avouait son inféodement.
On va donner les chiffres. Les versements de dividendes en 20 ans ont augmenté de plus de 265%. C'est ce que tu dis dans le livre. Le coût du capital, c'est un coût imposé à la société, en fait. Et le rôle des marchés financiers, c'est de prélever leur écho. Donc, on se retrouve avec des cas pratiques comme... Alstom, SNCF, EDF. EDF, on vous renvoie à toutes les émissions qu'on avait faites avec le syndicat qui était contre la privatisation des barrages et contre la privatisation d'EDF, et notamment le fameux projet de Hercule, dont vous parlez dans le livre. Il y a des privatisations rampantes dans le secteur de la financiarisation. Donc, il y a une malédiction. Et ça, j'ai bien aimé le terme, une malédiction actionnariale. c'est-à-dire les profits contre le coût de la vie.
Donc en gros, pour expliquer un peu comment on a pensé ce livre, ensuite je vais répondre un peu plus en détail. Ce livre, il est divisé en quatre parties, et qui est un peu, qui sont elles-mêmes structurées autour de quatre grandes questions. La première, c'est ces championnats nationaux, qu'est-ce qu'ils nous coûtent ? Et c'est ça dont on parle, et on va y revenir. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils nous apportent vraiment ? On en parlera sans doute un peu plus tard, en termes d'emploi ou autre. Quel genre de monde y contribue à créer ? Donc ça, c'est les impacts dans le reste du monde, la question du climat. Et enfin, quelles sont les alternatives ? Et donc, là, pour parler de qu'est-ce qui nous coûte, on a essayé de regarder les différentes manières dont, ces grands groupes, ils pèsent sur l'économie française, ils pèsent sur la démocratie française. Et donc, et ça se situe à plusieurs niveaux. Il y a un niveau dont on va peut-être parler, qui est la question des aides publiques.
Oui.
Donc les aides publiques aux entreprises, maintenant il y a de plus en plus de travaux, d'études, de diverses parts qui montrent que c'est devenu le premier poste de dépense de l'État. L'État s'est mis au service des entreprises, donc plus ça augmente plus vite que les dépenses sociales, c'est les aides publiques sous forme diverses, crédits d'impôt, etc.
100% du CAC 40 est soutenu par les pouvoirs publics.
Voilà, donc c'est effectivement, ça s'est encore accéléré avec le Covid, où il y a eu des plans de sauvetage, des mesures sauvetage d'hiver, le plan de relance, le plan de France 2030, et ça continue aujourd'hui, en ce moment même, on examine à l'Assemblée nationale et au Sénat un projet de loi qui s'appelle le projet de loi Industrie verte, et c'est de nouveau des crédits d'impôt, des aides publiques, donc ça s'empile, et qui sont devenus le premier poste de l'État. Et jusqu'à récemment, par exemple au moment du Covid, on entendait les dirigeants de Total, mais pas seulement, dire « Ah non, on ne bénéficie pas du tout du soutien de l'État, c'est pas nous, c'est les autres ». En fait, on voit que c'est pas vrai. Donc il y a c'est quelque chose qui est caché, mais qui est, voilà, qu'ils essaient de cacher, mais qu'on peut de moins en moins cacher. Donc il y a ces coûts directs. Donc comme je dis, c'était 150 milliards par an en France avant le Covid. Maintenant c'est plus de 200 milliards et ça continue à augmenter. Avec très peu de transparence, il n'y a pas aucune supervision. On vérifie pas que les entreprises sont censées faire sans contrepartie, voilà, sans condition. Donc il y a ça, mais aussi il y a des coûts un peu plus indirects. Donc on en distingue un premier qui est effectivement le coût de la soumission au marché financier, on pourrait dire. Donc chaque année, ces grands groupes, ils versent chaque année un peu plus ou beaucoup plus de dividendes. Donc ça augmente d'année en année, quel que soit leur résultat. Donc sur 20 ans, comme tu l'as dit, ça a augmenté de 265%. Et ça, c'est vraiment une sorte de... c'est une sorte d'impôt, d'une certaine manière, qu'on paye tous... en premier lieu les travailleurs de ces entreprises, bien sûr, qui travaillent de plus en plus importante de leur temps de travail est consacrée à rémunérer les actionnaires, mais nous, en tant que citoyens, contribuables, consommateurs, c'est un impôt presque 100 milliards par an que...
150 milliards, voilà, très précisément.
Qu'on verse à ces entreprises via les dividendes des rachats d'actions. C'est une forme d'impôt privé, quoi. Donc il y a cette première forme de coût. Une autre forme de coût, c'est lié à la privatisation. On sort quand même d'une phase, on y est encore, d'ailleurs on sort pas, où petit à petit, ce qui était une sorte de... Avec à nouveau beaucoup d'imperfections, c'est pas pour idéaliser le passé, mais on avait des entreprises publiques, des services publics, dont une bonne partie fonctionnait relativement bien, ensuite avec certaines questions sur l'énergie, le nucléaire, etc., mais qui ont été privatisées, donc mis au service... pas au service, mais entre les mains d'actionnaires privés. Et du coup, comme c'est des services publics, tout le monde, on n'a pas le choix, on en a besoin, mais on paye une partie de ce qu'on paye en tant qu'usager et autres, ça vient rémunérer les actionnaires privés, les marchés financiers, les consultants, etc., etc. On pourrait en parler en long, en large, du coût de ces privatisations. Donc c'est aussi une forme de coût pour la société d'avoir tout ce qui avait été construit collectivement au fil des années par les travailleurs et travailleuses de ces services publics, mais aussi par les contribuables, a été cédé souvent à un prix modique, peut-être irrémédiablement au secteur privé. Effectivement, ça vaut aussi en partie pour le secteur financier. La Caisse des dépôts, les institutions financières publiques sont de plus en plus alignées et mises au service des entreprises. Et donc la part de l'État n'a cessé de s'amenuiser. Et même quand l'État est encore nominalement propriétaire de certaines entreprises, en fait, ces entreprises sont mises au service aussi des marchés. Et le meilleur exemple, c'est effectivement celui que tu as mentionné d'EDF. Donc on pourrait dire, ah, c'est génial, l'État a renationalisé EDF, on a retour au service public. En fait, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit que l'État, justement, nous tous, le contribuable, assume tous les risques du nucléaire, les coûts du nucléaire. Donc c'est nous qui allons payer pour le nucléaire. Et ensuite, EDF va revendre l'électricité nucléaire, pas cher, aux acteurs du marché qui vendront des formules d'électricité, etc. Donc l'idée de ce projet, c'est de mettre encore plus que maintenant EDF au service du marché. Et bon, voilà, on pourrait... donc c'est vraiment... Et ça a été... Il y a un livre d'Anne-Laure Delatte qui est sorti récemment qui parle de ça aussi. On en a parlé dans plusieurs publications, nous-mêmes, à l'Observatoire des multinationales. On est vraiment, et ça existait avant, mais encore plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron, une radicalisation de la mise au service, la mise de l'État au service de ces champions nationaux, de ces grandes entreprises. Et on parle aussi d'encore, parce que malheureusement c'est pas tout, d'une autre forme de coût, d'autres formes de coûts. Déjà, il y a toute la question des coûts environnementaux. Qu'est-ce que ça nous coûte à tous de devoir nous adapter, par exemple, au réchauffement climatique, de traiter les pollutions, etc., etc. Et il y a la question du coût démocratique, qui est aussi peut-être la plus fondamentale, qu'on a un État, une démocratie qui désormais a été mise au service d'intérêts qui sont des intérêts avant tout privés et qui font passer ces intérêts privés, les intérêts de nos champions nationaux, et c'est autour de ça que tourne cette idée de champions nationaux, comme pour l'intérêt général, alors que c'est pas du tout l'intérêt général.
Alors, il y a aussi une médiatisation de ce mouvement qui est accentuée par le fait que 10 oligarques contrôlent 90% des quotidiens nationaux, donc ce discours est légitimé journal après journal, tous les jours. Donc, se battre contre ce discours ambiant, il faut se lever de bonne heure et il faut être optimiste. Apparemment, c'est ton cas.
Et attaque aussi. Il faut. Bon, ensuite, même dans ces médias propriétés de milliardaires, il y a des journalistes qui essaient de faire leur travail.
Oui.
Et mais il faut quand même soutenir. Il y a aussi des médias indépendants qui sont souvent dans une situation de précarité financière, mais bon, qui essaient de faire des choses. Donc c'est un combat, effectivement, le combat médiatique est important. Et c'est important à la fois de soutenir les journalistes dans les médias, les grands médias qui essaient de faire du bon travail, et les médias indépendants. Et puis, mais c'est ça. Ça, c'est une, pour moi, c'est une des facettes de ce coup démocratique, c'est qu'on a. Évidemment, c'est donc on parle de ces milliardaires qui possèdent la presse. Souvent, ces milliardaires, en l'occurrence, c'est aussi des PDG ou des actionnaires principaux de grands groupes du CAC 40.
LVMH,
Bernard Arnault pour Les Échos, Le Parisien, les Bouygues, Bolloré. Les Pinot pour Le Point, Bolloré, etc.
Et Dassault pour Le Figaro. On a tendance à l'oublier.
Il y a une question. Excusez-moi de t'interrompre. Il y a une question qui revient souvent sur le tapis. C'est comment ça se fait? Puisque les riches qui rachètent les journaux disent à qui veut l'entendre qu'un journal, ça perd de l'argent, donc ce n'est pas un placement. Alors pourquoi est-ce qu'ils rachètent tous des journaux, puisque ce n'est pas un placement? Alors peut-être toi, tu vas nous répondre.
Donc il faut nuancer. Les journaux, ce n'est pas des sources de profit. Hein. Ces journaux ne seront jamais des sources de profits mirifiques comme peut l'être pour Bernard Arnault à vendre des sacs Vuitton parce que le cours est fixe et ils peuvent augmenter le prix comme ils veulent et une demande monstre. Donc, mais ils ne sont pas forcément à perte, forcément. Mais c'est clairement l'intérêt premier, c'est un intérêt de d'influence.
De lavage de cerveau.
Voilà, de lobbying. Ouais. Mais au-delà à la fois d'influence sur le débat médiatique et politique, donc d'influence politique, mais aussi d'influence sur la société, de ce qu'on pourrait appeler du soft power. Donc c'est vraiment, dans la plupart des cas, c'est ça. C'est vraiment la raison principale.
Bien. Alors, on a fini notre première partie. On va aller faire une pause musicale. Et en deuxième partie, on va lister ce que nous apportent vraiment ces soi-disant champions... Ce que nous apporte vraiment ces champions nationaux.
Thank you.
auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire. Nous sommes avec notre invité, Olivier Petitjean, de l'Observatoire des multinationales. Olivier, nous allons aborder la deuxième partie du livre, qui a pour titre « Super profiteur, le petit livre noir du 440 ». Alors, je vais lire une phrase de Bernard Arnault et ensuite je vais la confronter avec une phrase de la Constitution de 1789. Une entreprise n'est pas seulement une source de profit pour les actionnaires, mais aussi une source de profit pour la nation. Bien. Alors, par contre, en matière de fiscalité, tu le dis dans le livre, un principe simple voudrait que chacun contribue en raison de ses facultés, article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Donc, abordons tout ce qui est fiscalité, cadeaux fiscaux, optimisation fiscale, dont est super champion Bernard Arnault, à tel point qu'il a voulu aller en Belgique pour éviter de payer sa quote-part à la nation.
Tout à fait. Oui, donc dans la seconde partie de ce livre, on essaie d'aller regarder vraiment à partir des chiffres si c'est vrai que ces grands groupes du CAC 40 nous apportent beaucoup de rentrées fiscales, beaucoup d'emplois, etc. Et c'est intéressant que tu mentionnes la déclaration de 1789 parce qu'effectivement, donc à l'époque, ça a été mis dans la déclaration de 1789, c'était parce que c'était la fin des privilèges, il fallait que tout le monde paye, oui. Quelle que soit leur classe sociale, que ce soit le clergé, la noblesse, le tiers-état, tout le monde paye l'impôt. Donc c'était la fin des privilèges. Et là, en matière de fiscalité, ce qu'on pourrait dire, et ce serait, je pense pas que ce serait très excessif de le dire, qu'on est face à un retour des privilèges, à la fois des privilèges extorqués, grâce à la structuration des multinationales qui parviennent à limiter leurs impôts. On va y revenir, je pense, à travers des filiales dans certains pays plus accommodants où ça les avantage. Et à la fois, de plus en plus, et malheureusement en plus de ça, donc il y a ces deux dynamiques, à la fois l'optimisation fiscale, mais aussi la deuxième dynamique qui est que les gouvernements en France baissent l'impôt continuellement pour les entreprises. Donc l'impôt, le taux d'imposition pour les sociétés a été baissé plusieurs fois, et là, dernièrement, par Emmanuel Macron, de 33% à 25%. On a entendu parler de la suppression des ce qu'on appelle les impôts de production. Donc ça, c'est les taxes touchées par les collectivités locales. Donc, il y a vraiment une baisse délibérée de la fiscalité qui pèse sur les entreprises. Donc, on a à la fois ces deux phénomènes où les multinationales, elles optimisent. Là aussi, on peut pas le nier de plus... À force de scandales et les chiffres qu'on a, on le voit qu'elles limitent leurs impôts à travers des implantations dans les pays accommodants. Et d'autre part, on a une politique publique de baisse de la fiscalité sur les entreprises. Et évidemment, comme les dépenses de l'État ne baissent pas, ça veut dire aussi que c'est les citoyens, les contribuables, mais pas seulement les contribuables au sens de ceux qui payent l'impôt sur le revenu, mais aussi tous ceux, les consommateurs qui payent la TVA, etc., qui assument, là c'est documenté, qui assument une partie de plus en plus grande de la charge fiscale de l'État. Donc en 20 ans, il y a... On était plus à 50-50 et on est passé à 40-60 entre les impôts qui pèsent sur les entreprises et les impôts qui pèsent sur les ménages. Et c'est les ménages qui payent de plus en plus cher. Et donc parallèlement, on peut pas aussi ne pas mentionner le fait que, en France en particulier, cette question de l'imposition, la fiscalité des entreprises, elle est inextricable, impossible à distinguer de celle de l'imposition, la fiscalité des super riches. Parce que les milliardaires, les super riches, en fait... Un, c'est tous des PDG d'entreprises, à la fois PDG ou actionnaires principaux d'entreprises, de luxe, L'Oréal, Bouygues, etc., etc. Mais en plus, une des raisons pour lesquelles il y a une étude récente de l'Institut sur les politiques publiques qui est sortie, qui a montré que les super riches en France payent beaucoup moins d'impôts que proportionnellement que les classes moyennes, par exemple. Et pourquoi ? Parce que ils arrivent à loger leur fortune dans des entreprises, dans des sociétés. Donc on sait que derrière le groupe LVMH, il y a non seulement le groupe LVMH, mais c'est plein de sociétés. Il y a le groupe Arnault qui détient, par plus d'intermédiaires de plusieurs sociétés, LVMH, etc. Et donc en logeant leur fortune, pour leur yacht, on parle beaucoup de leur yacht, pareil, c'est pas Bernard Arnault en tant que personne qui possède son yacht, c'est une société de LVMH qui possède le yacht. Pareil pour le jet privé, donc c'est c'est parce qu'ils sont des sociétés où leur fortune est logée dans des sociétés que voilà, ils parviennent à échapper à l'impôt.
C'est ce qu'on appelle le système des holdings.
Voilà. Et donc et c'est pour ça qu'on voit bizarrement tous les lobbies patronaux, un de leurs de leurs revendications principales pendant des années, c'était de supprimer l'impôt sur la fortune. On se demandait, mais vous êtes des entreprises, en quoi ça vous concerne l'impôt sur la fortune, ça porte sur les gens. Et bah, c'est pour ça, c'est pour cette raison précise.
Voilà. Alors, il n'y a pas que la, le fait de loger, ça, c'est bien dans des holdings. Il y a aussi le prêt de transfert, la propriété intellectuelle et la fraude à la TVA. Il y a tous ces mécanismes-là qui participent.
Voilà, donc ça, c'est plutôt la partie fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale. Donc souvent... souvent, voilà, avec des pratiques qui sont à la limite entre la légalité et l'illégalité. Certaines sont légales, certaines sont illégales, et puis beaucoup, une grosse partie, sont à la limite entre, en gros, c'est, ils profitent, enfin, il y a des marges de manœuvre maximum dont ils disposent. Et donc, effectivement, ça s'est bien documenté pour toutes les multinationales, et les françaises, en un certain sens, font pas exception. C'est, en gros, pour faire simple, c'est la capacité de ces multinationales, donc ils sont... Une multinationale comme Total, c'est 1000 filiales dans 130 pays du monde, disons. Et ben, ils peuvent, ça leur permet de mettre les revenus là où ils seront le moins imposés, tout simplement.
Donc, voire pas imposés du tout.
Voire pas imposés du tout.
Donc, comme les Bermudes.
La formule, voilà, la formule la plus simple et presque caricaturale, c'est voilà, les Bermudes, des paradis fiscaux tropicaux éloignés. Donc ça se fait. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas l'essentiel. Et malheureusement, de plus en plus, c'est possible de faire ça dans des pays européens. Le Luxembourg, évidemment, on le sait, parce qu'il y a eu le scandale des LuxLeaks, mais pas seulement. Les Pays-Bas, un temps la Belgique, l'Irlande, et même en France avec certaines choses, comme le, à travers le crédit impôt recherche, par exemple. Donc oui, cette capacité à mettre l'argent là où il sera le moins imposé. Donc souvent, par exemple, pour Total, et c'est une des raisons... pour laquelle Total, malgré ses super profits historiques qui se comptent en milliards d'euros, en dizaines de milliards d'euros, ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France, c'est que l'essentiel des revenus, à la fois de l'ingénierie, l'exploitation du pétrole, etc., après la part qu'ils reversent au pays avec qui ils sont partenaires, quand ils en reversent une qui peut être effectivement substantielle, elle est logée aux Pays-Bas. Et y a pas de, là, il n'y a pas de, par exemple, pas de taxation sur les dividendes, etc. Ce qui permet, voilà, de...
C'est, et le Total, fameux sandwich hollandais.
Voilà, ça, Total, voilà, cette capacité de dire, par exemple, Total, au sein du groupe Total, une filiale va acheter, va produire du pétrole en Angola, disons, une autre filiale aux Pays-Bas va acheter ce pétrole pour faire du, le revendre, à une troisième filiale toujours aux Pays-Bas qui va faire, je sais quelle très l'activité, qui va ensuite le revendre à une filiale en France qui fait le raffinage et une autre filiale en France qui la vend dans les stations d'essence. Et donc, ils peuvent choisir. C'est donc cette question des prix de transfert. Mmh. Ils ont une certaine latitude, disons, dont ils abusent souvent pour fixer le prix de ces échanges entre sociétés du groupe Total. Et en plus, ils ont la capacité à faire payer, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour Total en particulier, mais voilà, c'est une stratégie documentée de faire payer le droit d'utiliser la marque Total à une filiale qui sera basée aux Pays-Bas, parce que là-bas, ces revenus-là ne sont pas imposés. Donc tous les bénéfices que fera la filiale française de Total, ils seront amputés de cette sorte de redevance pour utiliser la marque Total qui sera aux Pays-Bas et qui ne sera pas imposée. Donc c'est vraiment ces multiples manières de mettre l'argent qui gagne là où ce ne sera pas imposé. Et effectivement, il y a toute une ribambelle de techniques. Certaines sont très classiques, comme la question des redevances sur les marques ou les prix de transfert, mais ils n'arrêtent pas d'en inventer, en fait.
Oui, c'est une ingénierie. Et il y a des gens qui sont payés pour ça. Je vous renvoie à l'excellent film qui est sorti en DVD depuis le 6 juin, La très grande évasion de Yannick Ergoat et de Denis Robert au Mutin de Pangée. Et il y a ton livre, mais il y a surtout la base de données sur le site de l'Observatoire des multinationales qui retrace tous ces chiffres. Pour ceux qui chercheraient des chiffres société par société, la base de données, elle est vraiment éloquente.
Voilà, on a pas mal d'infos. On montre quelles sont les entreprises du CAC 40 qui sont les plus présentes dans les paradis fiscaux, notamment. Et donc voilà, il y a toujours beaucoup à faire et beaucoup à trouver dans ce site.
Alors, autre chose pour laquelle on pourrait discuter de leur rapport, entre guillemets, ce sont les délocalisations. Parce qu'ils prétendent faire de l'emploi. Or, et regardez de plus près, ils délocalisent massivement quand ils ne licencient pas sèchement leurs collaborateurs.
Ouais, ça c'est un autre lieu commun qu'on entend tout le temps dans les médias comme si c'était une évidence inquestionnable. Ah oui, mais le CAC 40, il crée des emplois, on en a besoin, etc. Et là, malheureusement pour eux, on a aussi les chiffres. encore plus qu'en matière fiscale, et c'est pas compliqué d'aller voir comment évoluent les effectifs. Enfin, je dis on les a, mais malheureusement, on les a de moins en moins, parce que de plus en plus de groupes du CAC 40 ne disent pas plus exactement combien ils ont d'employés exactement en France, mais on en a quand même. Et on voit qu'en fait, la plupart de ces grands groupes suppriment des emplois en France, tendanciellement. Et ça se continue, c'est une tendance qui date pas d'hier, qui a commencé dans les années 90, mais les piliers du CAC 40, pour diverses raisons, suppriment des emplois. Donc, dans le cas de l'automobile ou d'autres, ce sera effectivement des délocalisations. Donc, ils continuent à produire autant ou plus, mais ils font appel à des usines qui sont pas en France et pas en Europe. Il y a aussi, par exemple, dans le cas des banques, il y a une politique de réduction, pour des raisons de coûts bêtes et méchantes, du nombre d'agences, de plus en plus passées au numérique, etc. Donc, il y a aussi une saignée sociale dans ces grands groupes bancaires qui étaient des employeurs importants en France. Dans la pharmacie...
Et dans le développement, comme Sanofi.
Voilà, c'est dans la recherche-développement. Sanofi a changé de modèle. Ils ont réduit drastiquement les équipes qu'ils avaient de recherche-développement en France. Et maintenant, ils misent sur des start-up qui payent des petites formules qu'on leur... à coups de milliards, etc. Et voilà, ils ont externalisé totalement une bonne partie de leur recherche-développement. Et sans parler, peut-être qui est le pire, c'est le cas des grands services publics dont on parlait avant, Orange, dans une moindre mesure Engie, EDF, SNCF, donc La Poste, SNCF, Orange, ça c'est des entreprises qui étaient des importants employeurs en France, et là il y a une politique délibérée, dans le cas d'Orange France Télécom, qui a été condamnée par la justice, tellement c'était agressif cette stratégie de faire sortir les fonctionnaires, de réduire les effectifs, mais on voit la même chose au niveau de la SNCF et La Poste, et c'est pas les pénuries les problèmes de recrutement à SNCF, c'est pas parce que personne veut y travailler, c'est aussi parce que c'est des choix délibérés de direction des entreprises. Donc voilà, on voit que ces grands groupes, tendanciellement, ils suppriment des emplois. En France en particulier. Et ceux qui créent des emplois, ils les créent quand même majoritairement ailleurs, dans le monde. Les grands groupes du CAC 40 qui créent de l'emploi en ce moment, et de loin, qui sont devenus des gros employeurs, c'est un groupe qui s'appelle Téléperformance, qui fait des centres d'appel. Et là, son premier pays d'implantation, c'est l'Inde. Et la France, c'est pas grand-chose dans ses effectifs. Et c'est Capgemini, pareil, un groupe de services informatiques. Et pareil, leur premier pays où ils sont implantés, c'est l'Inde. Donc c'est là que le CAC 40 crée des emplois. Donc voilà. En fait, et ça, cette idée... ces dernières semaines, on a eu pas mal d'annonces du gouvernement disant on crée des nouvelles... Gigafactory dans le Nord pour faire des batteries, pour des voitures électriques, ça va créer d'emplois, etc. Ça, c'est trompeur à deux égards. D'abord, le terme même de Gigafactory, il est très mal choisi parce que ces usines, en fait, elles emploient beaucoup moins de gens que les grandes usines automobiles qu'on a connues dans les années 70-80. C'est quelques milliers d'emplois, alors qu'on parlait avant de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Donc, et surtout, ce qu'ils disent pas, c'est que ces mêmes groupes, en même temps qu'ils créent quelques centaines d'emplois quelque part, continuent à en supprimer des milliers ailleurs en France, et ailleurs, pas seulement en France. Donc voilà, c'est un peu... Et ça, c'est une stratégie assumée d'accepter la destruction d'emplois qu'on juge dépassés, pas qualifiés, trop coûteux, etc.
Il y a même le livre, vous le pointez dans le livre, vous dites qu'il y a une coïncidence entre le versement des aides et les licenciements. C'est-à-dire que plus les aides sont versées, plus les licenciements interviennent à ce moment-là, justement.
C'est ça.
Il y a des chiffres, le tableau des chiffres est éloquent.
C'est ce que je disais, qu'effectivement c'est accepté. Maintenant, même dans les annonces gouvernementales, c'est même plus on va créer ton emploi, c'est on va créer ou protéger ton emploi. C'est-à-dire, ça sert même plus à créer de l'emploi, ça sert à éviter qu'on en détruise un peu plus, quoi. Et effectivement, il y a une sorte de validation que c'est normal pour des entreprises de supprimer des emplois parce que c'est coûteux, parce que certaines choses sont dépassées. Et au moment du Covid, on a eu une séquence incroyable, effectivement, où un jour, le gouvernement Emmanuel Macron annonçait tant de milliards pour l'aéronautique. Le lendemain, boum, Airbus annonçait des milliers de suppressions d'emplois, notamment en France. Pareil pour Renault et l'automobile, et pareil pour Sanofi et le médicament. Donc là, c'était vraiment d'une certaine manière, voilà. C'est, pour moi, en fait... ce dont on parle dans ce livre Super Profiteur, c'est une tendance, comme j'ai dit, qu'on observe depuis 20 ans de radicalisation un peu de l'exploitation par les actionnaires et les dirigeants des entreprises. Mais cette radicalisation progressive par rapport à ce qu'on connaissait au moment de la période des Trente Glorieuses, elle s'est encore accélérée. Il y a eu un vrai coup de force au moment du Covid, à mon sens, où elles ont fait accepter le fait que c'était normal qu'elles aient des super profits, que c'était normal qu'elles s'engagent à rien en contrepartie des aides publiques. Et on est encore dans cette séquence où elles réclament toujours plus d'aides publiques et toujours moins de responsabilités, toujours moins de devoirs vis-à-vis de la collectivité.
Alors, par contre, c'est un modèle qui est de plus en plus contesté. Je pense notamment, tu l'as bien rappelé, le succès de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, ou de Europa City, montre que les citoyens commencent à se rendre compte que, bon, stop, ça suffit, quoi. Il faut faire quelque chose.
Effectivement, donc c'est ce que je disais, on voit quand même une montée des contestations. Et notamment lié à un autre aspect qu'on aborde aussi dans le livre, qu'est-ce qui nous apporte vraiment ? On pourrait dire, bon, d'accord, un défenseur de cette entreprise pourrait dire, bon, d'accord, on ne paye pas autant d'impôts qu'on devrait, d'accord, on ne crée pas autant d'emplois qu'on devrait, mais au moins, on est utile à la société. Donc, il y a toute une question sur qu'on aborde, quelle est l'utilité sociale vraiment de ces grands groupes ? Et en fait, là aussi, quand on gratte, on pourrait se dire, ah, ils nous apportent plein de produits, des choses. Donc, quand on gratte, on voit que l'essentiel de ces grands groupes produisent des choses... pas très utile ou contestable, ou voire carrément nocive dans le cas de l'armement, par exemple. Et donc, c'est des choix de société, des modèles de développement qui nous sont de plus en plus imposés. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on est dans une économie qui est de moins en moins orientée par répondre aux besoins des gens, mais de plus en plus orientée par répondre aux besoins des actionnaires. Et de faire du profit pour les dirigeants et pour les actionnaires. Et ça veut dire on privilégie par exemple des grands projets rémunérateurs comme Notre-Dame-des-Landes, comme Europa City. C'est des choix technologiques, le nucléaire par exemple. La voiture électrique, c'est bien parce que ça permet de continuer à faire du business. Donc c'est... En termes de, l'utilité sociale est de plus en plus sujette à caution. Et ces luttes contre Notre-Dame-des-Landes, contre le centre commercial Europa City, mais aussi des luttes plus souterraines ou la recherche d'alternatives locales dont on parle aussi, remunicipalisation des services publics, relocalisation de l'économie, c'est aussi une contestation, pas forcément directe, mais du fait que, ces multinationales, non seulement elles créent pas beaucoup d'emplois, elles nous donnent pas beaucoup de recettes fiscales, mais en plus, elles nous sont de moins en moins utiles dans notre vie quotidienne. Et au contraire, quand on est client d'une banque ou d'un opérateur téléphonique ou d'un opérateur d'énergie, on a de plus en plus le sentiment qu'on est là pour être compressé, payer toujours plus cher un service de toujours moins de qualité, et c'est une réalité.
Alors, dans le chapitre 9, le titre c'est « Un fardeau pour les peuples de la planète ». On va aborder l'empreinte écologique de ces grands champions. Donc il y a une phrase de Macron que je vais citer, le temps de trouver la page. Je ne résiste pas au plaisir de le citer. Les entreprises françaises qui viendront investir en Afrique seront exemplaires. Et il l'a dit lorsqu'il était en visite au Burkina Faso en 2017. Alors, 2017, c'est pas n'importe quelle date, c'est pour ceux qui suivent notre émission, c'est la sortie de deux tomes qui ont montré à quel point les entreprises françaises sont exemplaires en Afrique. C'est De quoi Total est-elle la somme ? À Rue de l'Échiquier et à Éco-Société d'Alain Deneau, qui est à ce jour les meilleurs ouvrages pour disséquer une multinationale, la cinquième, Total, et toutes en particulier, puisque le plan pour disséquer des multinationales a été mis au dos du livre. Donc vous pouvez vous en inspirer pour disséquer d'autres multinationales. Donc, la phrase de Macron, la responsabilité sociétale, RSE, les salariés cachés, et notamment, on va en venir au drame du Rana Plaza, qui évoque des choses bien précises pour nos auditeurs.
Voilà, cette troisième partie, on se pose la question, on l'a intitulé comme ça, quel genre de monde ces champions nationaux contribuent à créer ? Et ça parle essentiellement de l'impact planétaire, global, de ces grands groupes français, dont effectivement on ne cesse de nous dire qu'ils sont plutôt vertueux, et en tout cas qu'ils sont moins pires que les autres, que les Russes, que les Chinois, et que c'est des modèles, et qu'il faut on devrait en être fiers. Et là, pareil, dans notre démarche, on va voir ce qui se cache derrière cette comme merveilleuse, et on montre que qu'il y a une vraie responsabilité forte de grands groupes français dans la crise climatique jusqu'à aujourd'hui, notamment Total, mais pas seulement. et qu'ils ne font pas grand-chose pour prendre leurs responsabilités ou pour faire quelque chose, parce qu'évidemment, ce n'est pas une source de profit que de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on montre que, voilà, qu'ils ont une empreinte aussi en termes de... en tant qu'entreprise multinationale, en termes de consommation de ressources naturelles, par exemple, et donc d'atteinte à des écosystèmes importants, les forêts amazoniennes ou africaines, équatoriales, etc. Parce qu'ils consomment de l'huile de palme, du soja, etc., etc., des minerais. Et on parle aussi, effectivement, de leur empreinte sur les travailleurs. Effectivement, ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre, important à comprendre quand on parle des multinationales, c'est que les multinationales, elles ont, d'une certaine manière, des travailleurs officiels, un effectif officiel. Donc, par exemple, Carrefour, c'est, emploie officiellement autour de 300 000 personnes dans le monde. Mais en fait, elles ont plus de ces travailleurs officiels, elles ont des travailleurs cachés, effectivement. Et là, ce terme est inspiré d'une étude qui a été faite par une fédération syndicale, qui sont tous les travailleurs, en fait, qui travaillent dans ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur d'un groupe comme Carrefour. Donc, les ouvriers dans les plantations qui produisent des haricots verts, je ne sais pas où, des tomates, des fraises en Espagne, etc. Les gens qui fabriquent des gadgets électroniques en Asie, les ouvriers qui fabriquent des vêtements dans des ateliers en Éthiopie ou au Bangladesh. Et là, effectivement, quand on fait le décompte, et donc cette étude dont j'ai parlé de la Fédération syndicale internationale avait fait le décompte, estimé que dans la chaîne d'approvisionnement de Carrefour, en plus des 300 000 officiels, il y avait 3 millions de personnes en plus qui travaillaient pour Carrefour, mais de manière cachée. Et que le problème, c'était que ces gens, déjà, les travailleurs de Carrefour, notamment en France, ceux qui sont en France, ils avaient certains droits quand même s'ils sont de plus en plus rognés, etc. Les travailleurs des groupes du CAC 40 qui sont dans des pays où les droits sont moindres, que ce soit aux États-Unis, mais sans parler de la Chine, ou des pays dangereux pour les syndicalistes comme la Colombie, ils sont un peu plus en danger. Mais ceux qui sont totalement en dehors du groupe, qui sont les travailleurs cachés, c'est les plus vulnérables, ceux qui ont le moins de droits, et les plus sujets à être exploités au-delà en fait, exploités au point de porter atteinte à leur intégrité physique, à leur sûreté physique et à leur vie. Et c'est effectivement ce qu'on a vu avec ce drame du Rana Plaza. Donc je rappelle, c'était il y a 10 ans, en avril 2013, un immeuble de la capitale du Bangladesh qui abritait des ateliers textiles s'est effondré, faisant 1100 victimes, principalement des femmes, parce que c'est principalement des femmes qui travaillaient dans l'industrie textile au Bangladesh. Et effectivement, on a retrouvé sur place des étiquettes qui laissaient penser que à la fois Auchan et Carrefour faisaient travailler des ateliers qui étaient dans le Rana Plaza. Ce que ces groupes ont toujours dénié, mais parce que il y a ce système justement de travail caché de sous-traitance et parfois de sous-traitance en casse-tête qui fait que les groupes peuvent dire « Ah non, on n'a jamais demandé à ces gens de travailler, nous on a un fournisseur officiel » et ils se voilent la face sur le fait que ce fournisseur officiel en fait fait travailler en cascade d'autres ateliers. Donc ce qu'on montre, c'est qu'en fait les groupes français, malgré leur proclamation de vertu, etc., participent à ces phénomènes d'exploitation de travailleurs et travailleuses dans les pays où ils sont moins protégés, et donc sont aussi responsables de ça, et essayent d'échapper à cette responsabilité.
Alors, il y a sur le Rana Plaza une base de données bien faite sur votre site, à l'Observatoire, mais surtout, il faut savoir que les analysations n'ont pas suivi, ce qui est un vrai scandale.
Oui.
Ces femmes, les rescapées, se battent toujours pour être indemnisées. Et 10 ans plus tard, elles n'ont quasiment rien reçu.
Donc voilà, effectivement, c'est tout un combat qui continue pour avoir droit. Donc à la fois, il y en a qui n'ont rien reçu pour diverses raisons, diverses excuses, pour les victimes dont les familles n'ont rien reçu en l'occurrence. Il y a une partie des blessés effectivement qui ont des problèmes d'indemnisation. Et ça, c'est lié à deux faits. Un, les entreprises, parce qu'elles ne voulaient pas être exposées à des poursuites directes, pénales ou civiles, ont généralement refusé d'admettre une quelconque responsabilité directe. Et donc, du coup, elles ont très peu contribué au fonds d'indemnisation. Et effectivement, oui. Donc, on est dans un cadre où ces donneurs d'ordre, ce qu'on appelle ces donneurs d'ordre, donc les grandes marques, celles de la grande distribution, pour le cas français, comme Carrefour ou Auchan, mais aussi les grandes marques type Zara, H&M, etc., ont accepté de faire quelques gestes suite au drame, pour la plupart, mais pas toutes. Globalement, au-delà de ces quelques gestes symboliques, parce qu'il fallait bien faire quelque chose, ont refusé d'assumer leur véritable responsabilité, à la fois du point de vue financier et de leur devoir vis-à-vis de ces travailleurs et travailleuses.
Bien. Alors, on va faire une pause et on va revenir sur les amis dictateurs de ces grandes champions francophones.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à cet arrêt. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM. Nous sommes dans la dernière partie de l'émission avec Olivier. Alors Olivier, on te reçoit pour le livre Super Profiteur, le petit livre noir du 440. En tant que coordinateur de l'Observatoire des Multinationales, on va rappeler l'adresse du site internet.
Donc c'est observatoiredesmultinationales.org, tout attaché, ou tout simplement multinationales.org, au pluriel, ça marche aussi.
Voilà. Et attaque.org pour
ouais, je pense france.attaque.org peut-être.
Oui, france.org, attaque.org. Alors, le chapitre 10, je me suis réjouie de le voir dedans. Leurs amis, les dictateurs. Donc, une phrase d'un PDG emblématique qui disait ceci: je ne vais certainement pas me mêler de politique ou exprimer des opinions. Christophe de Margerie, ancien PDG de Total, lors d'un entretien avec le Premier ministre russe, Dimitri Medvedev, en 2014. Bon, depuis, celui que Poutine qualifiait de véritable ami de la Russie est mort sur le tarmac de l'aéroport de Moscou. Bien. Mais, pendant qu'on y est, son remplaçant, Pouyanné, il a fait encore plus fort, si j'ose dire. Il a déclaré ceci: même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même.
Ouais, effectivement, ces deux citations, elles sont inscrites dans un contexte particulier qui est le contexte de la première guerre en Ukraine, donc en 2014, où effectivement, voilà, il était déjà question de sanctions à l'époque contre la Russie occidentale et... en fait, Total avait investi massivement en Russie, c'était une part importante de ses projets, à la fois pétrolier et gazier, et donc effectivement, et à cette époque, non seulement Total, mais toute une grosse partie des grands patrons du CAC 40, dès que Poutine claquait des doigts, ils allaient les inviter, ils allaient tous ensemble s'afficher avec Poutine, etc. Alors que, bon, déjà à l'époque, on savait à qui on avait affaire. Et d'une certaine manière, Poutine jouait sur ça en disant: mais vous voyez, vous le gouvernement français, vous dites ça, mais bon, vous voyez les vrais Français, les entreprises, eux, ils aiment la Russie, ils veulent faire du business avec vous, c'est pas ça qui est important. Donc on a vu ces liens. Bon, heureusement, on pourrait dire, au moment de l'invasion de l'Ukraine, quand même tous ces PDG, ils ont la plupart je me trompe parce qu'il y en a quand même qui sont restés, qui restent encore aujourd'hui.
Et qui restent malgré tout.
Donc, notamment les propriétaires d'Auchan, etc., et quelques autres. Mais bon, une partie des réseaux pro-Poutine dans le grand patronat français s'est trouvé contraint de se taire, et c'était une bonne nouvelle. Total, ils ont traîné des pieds, ils ont fini à force par sortir en grande partie de Russie. Donc voilà. Mais bon, ce que montre ce chapitre, en fait, c'est effectivement qu'il y a une longue histoire de... Déjà, ça montre que malgré leur dénégation, disons, on fait pas de politique, etc. Et ça, c'est très bien documenté dans le livre d'Alain Deneau dont tu as parlé sur Total. Donc, ils disent on fait pas de politique. En fait, ils font une politique, ils font de la politique à leur manière, une politique très claire. Et le fait de faire des alliances avec Poutine, c'est faire de la politique. On peut pas, y a pas moyen d'être neutre en travaillant avec la Russie de Poutine. Et on peut dire la même chose avec le Qatar aujourd'hui, mais aussi les dictatures africaines. Donc, on montre qu'il y a une longue histoire pour plein de raisons. Et on veut de collaboration et de complaisance entre les grandes entreprises françaises et les dictateurs en Afrique, mais pas seulement. Et ça s'explique d'une part, je pense, par l'héritage colonial de la France, parce qu'une bonne partie du CAC 40, même si cette histoire est en partie effacée, tient sa prospérité de ses liens avec l'histoire coloniale et postcoloniale néo-impérialiste de la France, en Afrique notamment, mais pas seulement.
Bolloré en est
un excellent exemple. Bouygues, évidemment Total, avec toute l'histoire d'Elf, etc. Et donc il y a ces liens historiques qui continuent d'une certaine manière, à mon sens, à informer la manière dont les entreprises françaises et le gouvernement français voient en particulier l'Afrique, enfin la manière dont ils conçoivent les intérêts de la France, la diplomatie économique, elle restera liée avec des discours les discours qui datent de la période coloniale. Et la citation que tu as donnée d'Emmanuel Macron disant « Mais les entreprises françaises, elles sont bonnes pour l'Afrique. » Et puis, tous ces discours disant « C'est normal, on a une relation naturelle, complémentaire entre la France et l'Afrique. » Tout ça, c'est des discours qu'on entendait déjà à la période coloniale. Donc, il y a cette histoire qui est très forte. Et d'autre part, ça tient à ce que font concrètement le business de beaucoup de grandes entreprises françaises. C'est de vendre des armes. Donc,
ça, c'est une passion française.
Voilà, sans surprise, les dictateurs, les régimes répressifs, c'est ceux qui achètent le plus d'armes, que ce soit pour utiliser à l'extérieur ou contre leur propre population dans certains cas. Les grands projets type Bouygues, Vinci, effectivement, les grands projets de prestige très rémunérateurs, des régimes autoritaires, ils aiment bien ça. Parce que dans un pays un peu plus démocratique, il y a potentiellement de la contestation, quand on l'a vu, comme on l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, même si la contestation aussi a été réprimée en France. Il y a plein de raisons qui tiennent aussi à ce que font concrètement les grandes entreprises françaises, qui font qu'elles ont des liens avec les dictateurs. Sans compter qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ces régimes dictatoriaux ou autocratiques, souvent, ils sont liés à la constitution de castes de privilégiés. Donc, c'est les pays encore plus inégalitaires, où il y a des castes autour du pouvoir qui s'enrichissent à grandes enjambées. On voit en Russie, mais aussi au Moyen-Orient. Et là, on voit tous les groupes de luxe arriver. C'est leurs clients privilégiés. Ils ont des relations privilégiées avec ces castes au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie et ailleurs dans le monde. Donc voilà, il y a des choses qui font que il y a des liens, des affinités électives, comme dirait l'autre, entre les groupes du CAC 40 et les régimes autoritaires, à mon sens.
En fait, tu poses même la question de savoir si la démocratie n'est pas si bonne que ça pour les affaires.
Ben voilà, c'est ce que je disais à propos des grands projets, c'est ils s'en plaignent tout le temps de dire « Ah, mais quand on veut faire quelque chose, il faut demander l'autorisation, il y a plein de règles environnementales, sociales qu'il faut respecter, c'est des obstacles, ça prend trop de temps. » Et c'est pour ça qu'ils admirent la Chine, où tout se fait tellement rapidement,
oui,
etc.
Oui, avec le travail forcé, voilà, par exemple.
Le chef décide, c'est fait, donc voilà, pour eux, évidemment, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et donc c'est pour ça qu'ils s'en plaignent pas.
Bon, alors, dans la quatrième et dernière partie du livre, qui est la plus passionnante, à mon sens, Attac et l'Observatoire proposent des solutions pour contrer tout ce constat qu'on a fait.
Pour montrer qu'on pourrait faire autrement et qu'on n'en a pas besoin.
Merci. Et l'une des solutions, parce qu'il y en a plusieurs, on n'a pas le temps de toutes les évoquer, mais d'ailleurs, on ne va pas les évoquer toutes pour donner le suspense à ceux qui voudraient lire le livre. La plus emblématique, pour moi, c'est le démantèlement des multinationales. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission.
Ouais.
Comment démanteler ces entreprises dont on n'a pas besoin, finalement, qui ont une empreinte écologique désastreuse, qui ont une empreinte sociétale désastreuse et qui sont des ennemis de la démocratie.
Voilà. Donc juste avant de rentrer dans la question démantèlement, juste peut-être préciser sans trop dévoiler le reste qu'à notre sens, on avance effectivement des pistes, des moyens d'action divers. Il y en a qui sont plus, disons, entre guillemets, réformistes, comme il faut changer les lois, etc. Et d'autres qui sont un peu plus action directe, blocage, etc. Et pour nous, tout doit aller en même temps. Il n'y a pas une solution. Enfin, elles ne peuvent pas être séparées. Il faut aller pour vraiment s'attaquer au poids excessif des multinationales. Il faut agir à tous ces niveaux à la fois. Effectivement, on pose la question. Et en un sens, elle est emblématique. C'est en fait, voilà, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de ces multinationales? Et là, c'est quelque chose sur lequel Alain Deneau, dont on a parlé, insiste beaucoup. On n'en a pas besoin de ces multinationales. Et ça, c'est important de le marteler. Dans beaucoup de cas, on n'en a pas besoin. Et peut-être dans tous les cas, on n'en a pas besoin. Et donc, mais elles ont un poids tel, elles ont acquis un poids tel, une richesse financière telle, un poids politique tel, une influence telle. Elles ont capturé l'essentiel des politiques publiques. Maintenant, sont au service, en grande partie au service du secteur privé, ou au moins ne vont pas jamais assez trop loin pour ne pas nuire aux intérêts de ces grandes entreprises. Qu'il faut se poser la question, comment on réduit ce pouvoir? Parce que il suffira jamais, évidemment. Si on laisse ce pouvoir intact tel quel, on pourra élire le leader politique, pour ceux qui croient aux élections. J'oublie que je suis sur Radio Liberté. ça donne de l'eau au moulin. On pourra élire tout ce qu'on veut, le leader le plus engagé, le plus ambitieux, le plus intègre, etc. Il sera quand même confronté à ce pouvoir. Et donc, la question qu'on pose, à travers le démantèlement, c'est comment on réduit le pouvoir des multinationales et ce qui permettra, de progresser sur tous les autres fronts. Et là, c'est intéressant parce que c'est pas une question nouvelle. Il y a des précédents historiques limités, mais la question, elle s'est posée de réduire le pouvoir des multinationales dans le passé. Une des manières historiques, notamment en France, de réduire le pouvoir des multinationales, c'est la nationalisation. On sait que ça marche pas toujours, notamment quand l'État est déjà pourri de l'intérieur, etc. Mais une autre manière qui renvoie à d'autres traditions, notamment aux États-Unis, tout ce qu'on appelle la tradition de l'antitrust, c'est forcer le démantèlement ou séparer les multinationales. Donc ensuite, faut, par exemple, aux États-Unis, au début du XXe siècle, il y a eu cet exemple un peu emblématique où le pouvoir politique a forcé, la Cour suprême a forcé la Standard Oil de Rockefeller à se séparer en plusieurs entités régionales. Bon, je mets tout de suite Lola, c'était pas parfait parce que ils sont simplement contentés de séparer en plusieurs entités sans vraiment toucher à la propriété ou la loi du marché. Donc c'était limité. Mais bon, ça montre qu'ils l'ont fait sur d'autres grandes entreprises américaines. À un moment, ils les ont forcés à partager leurs brevets, par exemple, ou à séparer. Donc c'est une tradition et qui est pas, c'est les États-Unis, mais c'est parce que ça vient des traditions bien étouffées aujourd'hui, malheureusement, mais de la classe ouvrière et des revendications de ce qu'on appelle le mouvement progressiste aux États-Unis à la fin du 19e siècle qui se battait contre ce qu'on appelait les robber barons, les barons voleurs, etc., les grands conglomérats. Ils avaient des revendications et là, voilà, il y a cette tradition de l'antitrust aux États-Unis qui a déjà été utilisée et qui aujourd'hui est remise au goût du jour par une partie des démocrates, mais plus contre les GAFAM en disant il faut démanteler Amazon, il faut démanteler Google, etc. Et je pense qu'effectivement, à mon sens, en tout cas, je vais parler en mon nom personnel parce qu'effectivement, c'est une question... qui peut-être susciterait pas mal de débats, etc., qui peut parler, qui pourrait sembler une vue de l'esprit, mais pour moi, on doit se poser la question, notamment pour les groupes qui ont la plus grosse capacité de nuisance de ce démantèlement. Et je rappelle quand même que en France même et en Europe, suite à la crise financière de 2008, il a été question de séparation bancaire. Il y a même une loi de séparation bancaire qui en fait était vide de toute ambition, tout contenu, mais qui consistait justement à séparer les grandes banques entre la partie banque de détail et la partie spéculation sur le marché, justement pour qu'il n'y ait plus cet effet où les banques spéculent sur les marchés, font des pertes immenses, et après il faut aller les sauver à coups de milliards parce que c'est l'argent des... Too big to fail, exactement. L'argent des petits épargnants, des petits consommateurs, des simples citoyens qui est en danger. Et donc, déjà à l'époque, il avait été question, et c'est une forme de démantèlement, de séparer ces grandes banques entre la partie banque de marché et la partie banque de détail. Et je pense qu'on peut se poser la question sur en tout cas certaines multinationales et notamment il y a le cas de Total qui pour moi est emblématique. On pourrait se poser la question. Total, c'est quand même une entreprise, elle a un tel poids, une telle influence politique, un tel poids économique, et puis il a aussi un tel pouvoir de chantage, on pourrait dire, parce que c'est le principal raffineur, quasi le seul raffineur en France, le principal distributeur d'essence, de gaz en France. Elle a un tel pouvoir de chantage qu'on pourrait se poser la question de séparer toutes ses activités, et ça réduirait de fait son pouvoir de nuisance. Et l'autre avantage, c'est qu'après, on pourrait se dire, bah, telle partie, ça devrait tout simplement disparaître parce qu'on a besoin de se passer de pétrole et de gaz, telle partie pourrait être reprise par les salariés, telle partie pourrait être nationalisée, mise dans le domaine public, notamment les brevets, etc., etc. Donc ça permet, voilà, ça peut paraître une vue de l'esprit, mais je pense que si on est sérieux sur la question de réduire ce pouvoir des multinationales, la question et notamment celles qui ont une capacité de nuisance la plus forte, c'est le démantèlement. Ensuite, il y a une autre forme, une autre manière de réduire le pouvoir des multinationales, c'est pas qui est pas le démantèlement, mais juste aller voir ailleurs. Et donc je pense que ça aussi c'est très important.
Oui.
Donc se passer des multinationales, développer les alternatives, une économie relocalisée, des circuits non monétaires.
Plutôt que d'aller chez Amazon, aller chez d'autres fournisseurs.
Par exemple, c'est un exemple typique. Céder, ne pas céder à la pente de facilité, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est qu'on y gagne en tant que consommateur, c'est plus facile d'aller chez Amazon. En fait, quand on voit les coûts cachés de cette dépendance envers les multinationales, on voit qu'en tant on peut avoir l'impression à court terme d'être avantagé en tant que consommateur client, mais en fait à moyen terme, à long terme, en tant que à la fois consommateur, citoyen de la France, mais aussi du monde, etc., on en paye les coûts, nous et le reste de la planète.
Oui, et je vous renvoie à l'excellent extrait de l'audition de Margaret Hodge, où elle fait expliquer aux grands des multinationales le coût caché de leur action dans le pays. C'est-à-dire qu'elle se posait la question de savoir pourquoi, quand elle commande un livre, c'est le Luxembourg qui a la facturation. Et elle dit, alors que vos entreprises ont des camions qui défoncent nos routes en Grande-Bretagne. Et bien ça, cet extrait prodigieux, qui est dans le film Le prix à payer de Harold Crox, je vous le recommande d'aller le regarder. Et c'est une excellente explication cas pratique du coût caché des multinationales. Donc, pour en revenir à Total, qui est mon antienne, il y a un hashtag Stop E-A-C-O-P qui est le projet actuellement le plus dangereux, un des plus dangereux que possède Total dans le monde. En Ouganda et en Tanzanie, il se passe un désastre humain et écologique de grande ampleur. Donc vous pouvez, avec ce hashtag, avoir tous les renseignements. Vous avez les Amis de la Terre France, 350.org, et Survie, l'association Survie, qui ont fait un travail de recension de ce projet. Il y a aussi l'Observatoire des multinationales. Donc, renseignez-vous et vous verrez qu'il est urgent de changer de fournisseur d'essence, par exemple.
De se passer d'essence en général.
Oui, on peut se passer d'essence, oui.
Pour prendre ceux qui peuvent.
Ceux qui peuvent, oui. Tout le monde ne peut pas, malheureusement. Mais, et on peut aussi boycotter ou on peut essayer de rejoindre les rangs de tous ceux qui sont, que je salue, de tous ceux qui ont empêché le 26 mai dernier la tenue de l'AG de Total, et toutes les images sont sur Internet. Les 700 qui se sont fait gazer et matraquer ont été d'un courage exemplaire.
Tout à fait. Et on voit, c'est aussi une nouvelle illustration de ce dont on parlait au début, que la contestation de ces grands groupes, elle monte quand même dans la société. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y ait
que 700 personnes.
Le blocage d'AG de groupes du CAC 40, qui étaient des événements destinés aux actionnaires, où ils ont l'habitude d'être entre eux, etc. Et maintenant, de plus en plus, voilà, cet entre-soi est brisé, soit de l'extérieur, quand on empêche les actionnaires de rentrer, même à l'intérieur, quand il y a des voix critiques qui s'expriment, mais qui continuent à être, à être réprimées, moquées, etc. Mais bon, voilà, la contestation incontestablement monte.
Alors, nous allons rappeler toutes les références. Attaque et l'Observatoire des multinationales pour le livre Super Profiteur, le petit livre noir du 440 aux éditions Les Liens qui Libèrent, 12 euros. C'est un livre essentiel qu'il faut avoir lu et posséder et faire tourner dans sa bibliothèque. Sinon, vous pouvez écouter et réécouter sur Radio Libertaire ou sur le site du groupe Louis Michel cette émission avec Olivier, que je remercie d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous.
François, tu as peut-être une dernière...
Bon, oui, mais bon, c'est un petit peu fondamental. C'est très bien de râler. On râle parce que les multinationales gagnent trop d'argent, elles ne payent pas assez d'impôts, mais enfin, on respecte quand même toujours le sacro-saint capitalisme, avec la sacro-sainte démocratie qui est alimentée par le capitalisme. Mais en ce moment, je pense que le vrai problème, il est un tout petit peu décalé, c'est que le carburant du capitalisme, c'est la croissance. Notre ministre de l'Intérieur ne peut pas faire un discours sans le dire deux ou trois fois. Donc, puisque le moteur du capitalisme, c'est la croissance, et puisque d'autre part, vu les problèmes climatiques, de réchauffement climatique, les problèmes de manque de ressources à tous les niveaux de la Terre, qui fait que tous les gens un tout petit peu informés, tous disent qu'il va falloir décroître, il va falloir non seulement arrêter de consommer autant, mais il va falloir décroître. Donc, comment faire décroître quelqu'un qui ne vit que par la croissance? Quelle est la solution, d'après vous?
C'est pour ça que...
J'ai proposé comme solution le démantèlement.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas...
Le démantèlement, mais le démantèlement par qui? Par la police? Quelle police va les démanteler? Les polices financières sont à la solde des grosses puissances. Il faut arrêter de rigoler. Même la démocratie, ça me fait rire d'entendre ce mot-là. La France est une démocratie. Oui ou non?
de basse intensité, mais une démocratie quand même.
Bon, alors, vous voyez ce que ça donne, un pays démocratique. Pourquoi cette haine du collectivisme ?
Vaste question. Non, mais il faut, effectivement, moi je suis d'accord pour dire que, clairement, les grands, on reste sur un modèle qui mise sur le fait, sur cette question de croissance, consommation de ressources, sur le fait que, donc c'est un modèle qu'on peut qualifier de capitalisme vert ou industrie verte, qui fait qu'en gagnant, en développant des nouvelles technologies, en gagnant en efficacité, on va réussir à résoudre les problèmes. Et on reste totalement gouverné, malgré tous les discours actuels sur la sobriété, on reste totalement gouverné là-dessus. Et c'est clair que les multinationales, elles sont conçues pour fonctionner sur ce modèle. Elles sont incompatibles avec un autre modèle décroissant. Parce que, à cause de plein de raisons, parce qu'elles sont gouvernées par la loi du profit, notamment.
Et oui, parce que le profit.
Et donc la solution
c'est
sur ces questions.
Naturel. C'est naturel à l'espèce humaine, le profit. On l'a tous, le profit. Tous.
Ensuite, il y a différentes.
Sauf quand on sort de confesse pendant 15 secondes.
Le profit financier tel qu'il existe actuellement n'est pas. Je ne pense pas qu'il soit aussi naturel que ça.
Non, il n'est pas naturel, François. Il y a des gens qui sont contre. Profondément.
Ah oui, mais
contre.
Il y a toujours eu des gens qui sont contre les excès. J'aime pas parler de nature humaine. J'aime bien parler d'espèce humaine. Je pense que c'est propre à l'espèce humaine, ça. Le profit.
Bien. Alors, je rappelle qu'il y a une journée de formation le 20 juin pour...
Sur comment enquêter sur le lobbying. Donc,
voilà, justement.
On essaie de partager un peu ce qu'on a appris en termes de pratiques, de méthodes, de sources au fil des années avec des journalistes, des militants, des membres d'associations, des syndicalistes, des assistants d'élus, voilà. À tous ceux qui peuvent en avoir le besoin, l'utilité.
Voilà, on peut s'inscrire sur le site de l'Observatoire des multinationales.
Oui, il y a les liens nécessaires sur notre site.
Voilà, et je voulais rappeler qu'il y avait eu hier des militants qui ont fêté, qui ont souhaité une bonne fête à M. Bernard Arnault.
Tout à fait, oui. Bah, c'est un autre exemple de cette contestation des multinationales, donc... Une action, notamment, où une attaque, justement, notre partenaire sur ce livre était présent et impliqué autour du magasin de la Samaritaine, à Paris.
Voilà, tout à fait. C'était très ludique. Toutes les images sont sur le site de Attaque, franceattaque.org. Donc, voilà. Donc, je rappelle le titre du livre.
Et sur quelle chaîne de télé, parmi les 27 qui nous submergent à longueur de journée, combien en ont fait l'écho ?
Aucune.
Bon, alors... C'est même pas la peine de continuer, hein.
Mais par contre, sur Radio Libertaire...
On va râler. Ah oui, on va râler, mais qui c'est qui va savoir qu'on râle ? Ah, personne. Ah bon, alors, quoi ça sert de râler, tu vois ?
Mais il y a des propositions pour avoir des chaînes alternatives de télévision.
Ah oui, les propositions ne manquent pas.
Voilà. Il y a Radio Libertaire, donc tout avance. Il suffit d'être patient, François. Donc...
Ah oui, pardon.
On nous dit d'éviter de taper sur la table.
Oui, c'est mieux.
François.
Mieux, ce serait que... Oui.
Voilà. Donc, on va remercier Olivier.
Merci.
On va remercier Nicolas, qui exceptionnellement était notre technicien. On va remercier Kandong, qui était avec lui, pour l'assister. François,
il
merci. Voilà. Je rappelle le titre « Super Profiteur, le petit livre noir du 440 » aux éditions Les Liens qui Libèrent. Donc, Olivier, merci. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une interview qui, j'espère, vous plaira d'une autre personne très engagée et qui a fait un travail remarquable avec un livre remarquable. Merci.
Cela peut arriver au prophète. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer, veux dur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Et s'ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car celui qui m'a jugé déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les musées, son fils numéro 1. Mais excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Déodorant dès le saut du lit. Si elle est heureuse avec ça, c'est tant mieux, moi je m'en vas. Retrouver sous le néon blafard mes potes au rendez-vous des tocards. À trop tourner autour des lumières, on finit par se brûler les ailes. Qu'on soit pauvre mec ou lépidoptère, c'est pas là une chose nouvelle. À 20 ans, j'ai quitté mon village. C'est dire qu'il y a vieux qu'on m'y a oublié. Bientôt viendra la fin du voyage. On irait sur la pointe des pieds.
Un peu de ta douceur pour mesurer nos gestes. À peine de bonheur pour en avoir envie. Ce qu'il faut de l'amour pour inventer le reste. Et le sourire que tu mets dans notre vie. Toucher ta peau pour récupérer mes repères. Fermer les yeux pour te sentir à mes côtés. Embrasser sur ton corps là où joue la lumière. Et m'amuser d'un rien où tu m'as invité. Échanger des sourires contre à peine un instant. Rester à se connaître en commençant de rien. Se demander enfin ce qui fait les amants. Pour se contenter d'un silence qui revient.
espérer de demain et douter de plus tard, en se laissant aller à croire à aujourd'hui. J'aurais confié ma route sans doute au hasard, si je n'avais croisé l'amour que j'ai cueilli.
Les pierres d'un sentier, et je fuyais la vie civile des autres plantes de l'herbier. Mais voilà que passe un beau jour, un simoun plein de serpolet. Il sentait bon le brin d'amour, de justice et d'humanité. L'herbe se couche quand le vent passe, l'herbe se couche par les champs des prés, l'herbe se couche quand le vent passe, et il passe. Moi je me suis couché, j'aimais, j'aimais comme herbe folle toutes les fleurs bleues du sentier, et je cherchais dans leur corolle un peu de pollen à humer. Et voilà que passe un beau jour, près de mon cœur analysé. Il sentait bon la fleur d'amour, de tendresse, de fidélité. L'herbe se couche quand le vent passe, l'herbe se couche par les champs, les prés. L'herbe se couche quand le vent passe, et il passe. Moi je me suis couché. Je faisais déjà grande place à mon simoun, mon alizé. Je leur bâtissais un palace avec les pierres de mon sentier. Et voilà que passent en tornade les aquilons, les vents mauvais qui abattent les barricades et détruisent les azalées. L'herbe se couche